Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir durant cette demi-heure sur RTL pour parler de vos actualités, avec Stéphane Boutsock en compagnie de Laurent Gérard qui est resté avec nous. Tout d'abord, la sortie mercredi au cinéma de votre film Lumière, l'aventure commence, qui regroupe une bonne centaine, 108 si je me souviens bien, des films tournés par les frères Lumière au début de l'histoire du 7e art. Vous publiez ensuite aux éditions Grasset Sélection officielle le journal d'une année de votre vie et notamment celle de délégué général du Festival de Cannes. Et à ce propos, nous évoquerons bien entendu avec vous la 70e édition qui se prépare pour le mois de mai sur la Croisette, notre soirée télé avec Isabelle Morini-Bosque et notamment le téléfilm Le Pacte Sacré avec Romane Boranger sur France 3. Thierry Frémaux, avant de parler de tout cela et pour mieux comprendre d'où vient votre passion du cinéma, ou plutôt des cinémas, vous souvenez-vous de votre toute première émotion devant un grand écran ?
J'ai coutume de dire que enfant c'était La Chevauchée Fantastique de John Ford. Alors il y a toujours un moment où le cinéma du coup rentre dans votre vie, mais comme un enfant, comme tous les enfants. Puis après, à l'adolescence, je dirais que c'est Il était une fois dans l'Ouest.
Ah, ce sont
pas mal comme début.
Oui, ce sont deux chocs intéressants qui ont en commun, voilà, l'Amérique, les cow-boys, certains Indiens et un univers tout à fait particulier. Alors, Stéphane Boutsock, vous avez vu le documentaire, hein, Lumière, l'aventure commence, et je sais que vous avez été à la fois emballé et ému comme moi d'ailleurs.
Ben ouais, parce que toute l'histoire du cinéma est déjà dans ces petits films de 50 secondes tournés à partir de 1895 à Lyon, là où Auguste et Louis Lumière, ingénieurs et industriels, possédaient leur fameuse usine, rue Saint-Victor, qui est devenue la rue du premier film. Usine devant laquelle est mise en boîte le premier film de l'histoire du cinéma.
Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. Il est posé sur le trottoir d'en face. Que dit Lumière ce jour-là ? Allez-y, action. Aucun témoignage, aucune archive. Mais c'est le geste inaugural. Longtemps, ce film fut désigné comme le premier d'entre eux.
Alors, il y a un petit doute aujourd'hui sur le fait que ce film-là est vraiment le premier, parce que les frères Lumière ont tourné plusieurs versions. Enfin, ça s'est passé quand même là, hein, devant l'usine. L'aventure, en tous les cas, est lancée. 122 ans plus tard, on y est encore. Aventure qui continue. Votre documentaire, Thierry Frémaux, montre de façon éclatante, émouvante, drôle ou fascinante que Louis et Auguste, qui étaient aussi des photographes et des passionnés de photographie, ont en fait tout inventé dès la fin du 19e siècle en matière de cinéma. Il y a le gag, hein, le premier gag, l'arroseur arrosé, l'effet spécial, le plan panoramique, le travelling, les cascades, c'est ça. Il y a tout, déjà.
Oui, oui. Alors d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas mon documentaire, c'est vraiment les films de Lumière. Et quand on dit Lumière, d'ailleurs, c'est Lumière et ses opérateurs. Et en effet, il y a l'idée que Lumière est un inventeur et est un cinéaste. Jamais tout à fait un inventeur. On est tout le temps en train de lui faire des procès en paternité. C'est pas vraiment lui, c'est Thomas Edison, etc. Et puis, comme cinéaste, c'est pas vraiment lui, c'est Georges Méliès. Or, celui qui a inventé le cinéma en est en effet l'un des premiers auteurs, l'un des premiers réalisateurs. Et ce qu'il a fait est très très éblouissant.
Ce qui est remarquable aussi, c'est de constater qu'ils ont absolument tout filmé. Les prolétaires, les bourgeois, les militaires, les femmes du monde, les arts, les paysages, les villes, les petits Vietnamiens. Les frères Lumière étaient aussi des journalistes qui ont ouvert le monde au public.
Oui, oui. En fait, là aussi, contrairement à une légende, le cinéma a eu du succès tout de suite. Et Lumière voulait, il a aussi inventé la salle de cinéma, il voulait que tout le monde soit dans la même salle pour voir les films. Donc, l'américain Edison disait, mais il est fou parce qu'il va tuer la poule aux œufs d'or. Et Lumière décide du coup de tourner, de produire plein de films pour alimenter les salles. Donc il envoie des opérateurs à travers le monde, en effet jusque ce qui était à l'époque l'Indochine française, le Mexique,
le Sphinx,
le Japon, l'Égypte, pour alimenter les salles et faire plein de films. Et du coup, lui et ses opérateurs, ça les oblige à une créativité, à une expérimentation qui fait que les gestes qu'ils ont faits sont ceux qui ont été faits après, oui.
Alors Thierry, vous êtes aussi le directeur de l'Institut Lumière à Lyon, patron de ce formidable festival Lumière qui tous les ans rend hommage à l'automne au patrimoine vivant du 7e art. 108 films restaurés sont montrés dans le documentaire. Il y en a des milliers. Est-ce qu'on sait exactement combien et est-ce qu'on en découvre encore ? Est-ce qu'il en reste à découvrir aussi ?
Alors, vous parliez de l'énigme des trois versions de la santé des usines Lumière. L'une de ces trois versions a été découverte tout à fait récemment, pour d'ailleurs venir complexifier encore le problème, parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'archives, on ne sait rien.
Mais quand on dit c'est chez des particuliers, c'est où?
Oui, alors par exemple, le tribunal des prud'hommes, qui servait autrefois de dépôt légal, un jour, il y a une vingtaine d'années, un type prend sa retraite, vide ses placards, et tombe sur une centaine de films Lumière, qu'on reconnaît tout de suite parce que c'était du 35 mm, mais les perforations étaient rondes. Le 35 mm classique, c'est 4 perforations par image carrée, et là, c'est une perforation de chaque côté de l'image, ronde. Donc là, on sait tout de suite, avec les bords arrondis, et le film, j'ai voulu respecter entièrement le format, là, on sait tout de suite que c'est des films Lumière. Les archives du film du CNC à Bois d'Arcy ont repéré qu'il y avait 1422 films officiels, il y a 800 hors catalogue. Dans le catalogue Lumière, c'est 1422. Et on en a retrouvé 1417. C'est-à-dire que le premier patrimoine, alors qu'on sait que le cinéma muet a disparu à 80%, le premier patrimoine de l'humanité, pardon d'employer des grands mots, est intact.
Alors, 1895-1905, 20 ans durant lesquels les frères Lumière ont filmé la France et le monde, on vient de le dire, est-ce qu'ils avaient compris que leur invention, le cinématographe, allait devenir un phénomène culturel?
Oui, oui, là encore, il y a des paroles trop modeste de Louis Lumière qui salue en Georges Méliès l'inventeur du spectacle cinématographique. Il l'a fait lui-même. Encore une fois, quand on lui prête la parole, le cinéma est un art sans avenir. Il a fait 1500 films. Ça prouve quand même bien qu'il s'y intéressait un tout petit peu. Mais après, il a considéré que il fallait laisser ça aux autres. Et puis surtout, lui, il avait une grande passion, c'est qu'il voulait inventer la photographie en couleur. Ce qu'il a fait, il a inventé les autochromes lumière, les autochromes couleurs.
Alors, ce qui est fou de constater quand on regarde et quand on écoute le film Lumière, l'aventure commence, c'est combien ces films-là, et ceux que vous montrez notamment, ont inspiré de grands réalisateurs. Je vais en citer quelques-uns. Kazan, Wenders, Renoir, Kurosawa, même James Cameron, il y a une scène d'un bateau, du lancement d'un bateau, et vous dites, dans Titanic, il y a quasiment plan pour plan le même film.
Oui, alors évidemment, je ne prétends pas que Kazan, James Cameron et Renoir connaissaient les films Lumière et s'en sont directement inspirés.
La matière est là.
Mais la matière est là, et puis Lumière s'est posé les mêmes questions que tous ces gens-là vont se poser après lui. J'ai une histoire à raconter, comment je le fais, où est-ce que je mets la caméra? C'est le même processus. Et du coup, lui, dans ses 50 secondes, hein, parce que c'était 17 mètres de pellicule, il y a une sorte d'évidence, d'innocence, qui donne, à mon avis, cette vérité, cette force au film, qui fait que quand on les voit aujourd'hui, c'est comme les voir au présent, quoi.
Alors j'ai même appris, alors en lisant votre livre dont on va parler, vous les avez montrés à tout le monde ces films, j'ai même appris que Michael Jackson était venu à l'Institut Lumière et vous lui avez montré les films et vous dites dans le bouquin, ce jour-là il a enlevé ses lunettes noires.
Oui, 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 parce qu'il était là pour une conférence de presse et du coup on lui a montré ça, ça l'avait passionné. Il y a un film qui s'appelle Le squelette joyeux, qui est un film de marionnettes, ça l'avait éclaté Michael Jackson et il avait été très très passionné. C'était assez difficile de sentir ce qu'étaient ses émotions. Mais là, il m'en avait parlé beaucoup.
Je vous interromps parce qu'on vient d'apprendre une information qui vous concerne directement et qui nous concerne, puisqu'on parle cinéma, depuis le début de cette émission. C'est que Roman Polanski vient d'annoncer qu'il renonçait à présider la soirée des Césars. C'est son avocat qui l'annonce et l'agence France Presse qui vient de le publier. Vous pensez qu'il a raison ?
Oui, oui, je l'ai eu moi au téléphone hier soir et je pense qu'il ne fallait pas ajouter des problèmes aux problèmes. Et il est très meurtri. C'est une affaire qu'il faut bien bien connaître pour pouvoir en parler. Donc moi-même, je la connais bien, mais je ne vais pas ajouter mes propres commentaires.
Bon, en tout cas, désormais, c'est officiel. Roman Polanski donc renonce à présider cette cérémonie des Césars.
Et les nominations, c'est demain. Donc on connaîtra, j'imagine, d'ici demain, notamment par la voix d'Alain Terzian, le patron de l'Académie, le ou la nouvelle présidente.
Thierry Frémaux est notre invité ce matin à l'occasion de la sortie demain au cinéma de son passionnant documentaire Lumière, l'aventure commence, mais aussi de la sortie chez Grasset de son journal Sélection officielle, dont nous allons parler dans un instant. Sur cette très belle musique de Camille Saint-Saëns qui rythme votre film Thierry Frémaux, nous offrons ce matin des places de cinéma et des exemplaires du livre à nos auditeurs. Mais pour gagner, il faut répondre à la question que nous pose Stéphane.
Relativement simple. Dans quelle ville de France a été tourné le premier film de l'histoire par Auguste et Louis Lumière, le 19 mars 1895. Thierry et Laurent Gérard sont avec nous. C'est une ville qu'ils connaissent bien, on va dire.
Ils ont un grand sourire tous les deux. Allez, réponse au 32-10. On se retrouve avec toute l'équipe dans un instant. Mais d'abord, les audiences médiamétrie de notre soirée télévisée avec vous, Isabelle.
Pas grand-chose à dire, rien à redire. Clem est en tête avec 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public sur la 1, c'est pas mal. Cassel, 3 600 000 fidèles sur la 2, 14% du public, c'est pas mal. Et en troisième position, eh bien, les infidèles sur M6, 2 100 000 téléspectateurs, c'est pas mal. Moins de 10% du public. La grande déception est pour le documentaire de la 3 qui était pourtant formidable, Le Monde sous les bombes. Moins d'1 500 000 téléspectateurs et moins de 6% du public sur la 3. C'est comme on dit mal payé. Et côté TNT, c'est TMC qui est en tête avec 1 010 000 personnes devant Taxi. Ça ne se refuse pas.
Et moi, j'ai regardé le documentaire de notre ami Thierry Frémaux sur les Lumières. Et ben, je peux vous dire que c'est passionnant. Oui. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Lumière, l'aventure commence demain au cinéma et sélection officielle en librairie chez Grasset. Double actualité pour Thierry Frémaux. Notre invité ce matin, Stéphane, vous avez dévoré le livre sélection
J'en
officielle.
J'en suis à la page 500, il m'en reste 100, hein, je vous le dis.
Voilà, vous n'avez pas fini votre
pas
travail.
Pas totalement.
Et elle retrace un an de la vie du délégué général du Festival de Cannes, qui est aussi le directeur de l'Institut Lumière de Lyon.
Alors, c'est un journal intime qui est aussi un vrai roman de 365 jours, de course contre la montre, Lyon, Paris, Cannes, Chougne, votre refuge entre Isère et Vercors, mais aussi Los Angeles, Buenos Aires, Bucarest, Athènes. Ces 616 pages, je crois, sont un vrai guide du routard du cinéphile qui démontre qu'on peut aimer Scorsese et Danny Boone, le cinéma coréen et Raymond Poulidor, prendre autant de plaisir devant un film iranien qu'un match de l'Olympique Lyonnais, vous êtes un grand fan de football, Thierry, discuter avec le réalisateur roumain Christian Mungiu qu'avec Laurent Gérard, enfin même plus que discuter avec Laurent, parce que pour avoir dîné une fois avec vous, enfin bref, ouais. Déguster... Vous y étiez, ben je me souviens. Déguster un verre de Malbec, et savourer ceci aussi. Born to Run de Bruce Springsteen, vous êtes un immense fan du boss. Ce livre que l'on pourrait croire réservé aux professionnels de la profession, comme disait Godard, est en fait une vraie déclaration d'amour aussi au plaisir de la vie. C'est incroyable ce que vous voyagez, ce que vous mangez, puisque vous buvez aussi de temps en temps dans ce bouquin, Thierry.
Ben oui, mais ça, comme tout le monde, c'est des choses importantes de la vie. Oui, ben je voulais raconter à travers ma propre existence celle d'une communauté professionnelle. C'est-à-dire que je ne parle pas évidemment que de moi, ou en tout cas à travers ça, je voulais aussi évoquer les artistes, des gens connus.
On croise tout le monde.
On croise beaucoup de gens, mais parce que je travaille avec des gens connus. Si je travaillais avec des gens, si c'était le journal d'un ouvrier de chez Berlier à Vénissieux, évidemment, il n'y aurait pas Monica Bellucci dans le livre. C'était aussi de parler des distributeurs, des producteurs, de l'idée qu'il y a des gens qui se bagarrent, quoi, que partout, que sous les paillettes et le tapis rouge, il y a une communauté professionnelle qui, en effet, se concentre un mois par an, enfin 2 semaines par an sur Cannes, et qui croit en ce qu'elle fait et qui croit à l'idée que le cinéma, on revient aux Lumières, le cinéma d'emblée a dit qui nous étions. Bon, le cinéma, ça continue à dire ça. Et il y a des gens qui, partout, en effet, en Corée, en Argentine, en Roumanie, au Mexique, se bagarrent pour ça.
On suit notamment dans ces 12 mois de l'année 2015-2016 le marathon, puis le sprint, hein, pour bâtir le Festival de Cannes, de l'affiche à la sélection officielle. Vous êtes délégué général depuis 2007 et on découvre par exemple que vous avez refusé l'an dernier de succéder à Jérôme Sédou à la tête de Pathé. Toujours pas de regret ?
Non, oui et non. Je voudrais avoir plusieurs existences, mais il faut choisir.
Ça vous caractérise.
C'était une très très belle proposition que Jérôme m'a faite, mais je crois que j'étais utile là où j'étais. Et ils sont quelques-uns à Hollywood et ailleurs à m'avoir dit « tu ne bouges pas ».
Alors, l'an dernier, vous le racontez dans le livre, George Miller, vous avez dit oui pour la présidence du Festival de Cannes le 21 janvier, nous sommes le 24. Est-ce que vous avez votre président ou votre présidente pour la 70e édition au mois de mai ? Je ne vous demande pas de me le dire, parce que je pense que vous ne me le direz pas ce matin, mais est-ce que vous l'avez ?
Là, je laisse passer 2 ans.
Oui, bien sûr.
Oui, on l'a.
Ah. Et ça sera annoncé globalement, vous savez à peu près ?
C'est toujours, comme vous l'avez dit, on annonce les Césars, les Oscars, donc il faut toujours faire une petite place. Quand Steven Spielberg avait été annoncé président du jury, c'était au mois de février, fin février, alors qu'on le savait depuis un an. Donc c'est toujours aussi des stratégies un peu médiatiques, histoire de faire la meilleure place à cette annonce, parce que c'est important. Le président du jury de Cannes, chaque année, c'est gaieté, donc voilà. Mais je ne vais pas vous mentir, bien que j'explique que je mente quand même pas mal.
Oui.
Mais c'est des bons mensonges.
Mais ce qui est bien, oui, c'est vous mentez en regardant dans les yeux.
Oui, voilà.
C'est mieux.
Et sous le regard de Laurent Gérard, au fil des pages, vous évoquez aussi votre vie avec votre compagne, vos parents, votre vie de père de famille, avec notamment l'opération douloureuse de votre fils Victor, ou encore votre bonheur à arpenter la campagne à vélo, le travail des champs. Est-ce que la folie du monde du cinéma vous manquera quand tout cela s'arrêtera?
Non, parce que la folie du monde du cinéma, quand on est cinéphile, on l'a par piqûre d'emblée. Et je dis aussi que quand j'ai commencé, porter des bobines de films, pour moi, c'était déjà travailler dans le cinéma.
Bien,
j'étais
bien
nobody, mais bon, et que peut-être que, puisque l'Institut Lumière a sauvé des salles de cinéma à Lyon, des salles d'arrêt essai qui allaient fermer, peut-être que je la terminerai ma vie en déchirant les billets à l'entrée des salles, et ça m'ira très bien.
Je parlais des plaisirs de la vie, puisque Laurent Gérard est avec nous. Oui. Votre amitié, elle est née comment? Parce que vous êtes vraiment très amis.
Elle est née autour de Woody Allen, non?
Oui.
Hein, quand on s'était vu, Woody était venu faire un concert à Vienne. Vienne, Isère, non pas Vienne, Autriche. Et on s'était croisés, on s'était reniflés, mais on s'est vraiment connus à partir de là. Puis Clint Eastwood, et puis voilà.
Oui.
Laurent Gérard.
Oui, c'est vrai. Bah oui, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, mais c'est finalement assez récent. Et puis, il y avait un film qui avait été sélectionné hors compétition, un dessin animé. Et puis surtout, c'est la première fois que j'ai vu Thierry. Une des premières fois où on a dîné ensemble. Et Dieu sait si à Lyon, on dîne bien.
Et puis, c'est important pour vous deux.
J'avais vu que sur son fond d'écran, il avait La prisonnière du désert. J'ai dit, ah, tiens, c'est assez symptomatique, on va dire.
Et Laurent m'énervait énormément parce qu'il n'aimait pas Ken Loach, il n'aimait pas Pedro Almodovar, il n'aimait pas...
Oui, il n'aime pas tout ce qu'on aime.
C'est pas qu'il n'aimait pas d'ailleurs, c'est qu'il aimait se moquer d'eux,
oui.
Mais parce qu'en fait, il a meilleur goût qu'on pense.
Ah, vous voulez dire que c'est une protection. Alors au fil des pages...
C'est un grand spécialiste de la chanson, Thierry aussi.
Oh, oui,
on s'est retrouvé
oui,
beaucoup sur les chansons, sur la chanson française.
C'est un curieux, il s'intéresse à tout. Au fil des pages, vous évoquez aussi, cette vie particulière. Alors on connaîtra cet après-midi les nominations pour les prochains Oscars. Et demain matin, celle des Césars. Hein. L'aventure d'Isabelle Huppert, commencée à Cannes en mai dernier avec le film Elle, prouve une nouvelle fois l'importance du festival qui rythme en fait l'année cinéma. Est-ce que c'est un statut acquis ou est-ce qu'il faut toujours entretenir la machine, très sincèrement?
Non, rien n'est acquis. Et quand vous êtes au sommet, il faut se méfier. J'ai coutume de dire qu'en montagne, souvent les accidents ont lieu à la descente.
Oui.
Et donc, il faut faire attention. C'est pas de la même manière que les films Lumière ne sont pas à moi, ne sont pas aux Lyonnais, ne sont pas aux Français, ils sont à tout le monde. Le Festival de Cannes, c'est strictement la même chose. C'est une sorte de maison commune mondiale. Et c'est à nous d'y veiller pour qu'elle le reste.
Vous restez avec nous Thierry Frémaux. Dans un instant, on va parler télévision, un partenaire obligé et parfois compliqué du cinéma. Ce sera bien entendu avec Isabelle Morini-Bosque. A tout de suite, merci d'écouter RTL. Excellente journée à tous.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
On en vient donc à la télévision, Isabelle Morini-Bosque. Vous avez évoqué Cash Investigation dès 6h20 sur notre antenne.
Sur le bois.
Mais c'est en fait surtout une soirée riche en fiction télévisée. Vous les regardez d'ailleurs, Thierry Frémaux, les séries télévisées?
Très peu, j'en ai regardé quelques-unes. Comme dit Tavernier, pourquoi est-ce qu'on me raconterait une histoire en 18h quand je peux l'avoir en 1h30? Mais c'est un âge d'or formidable. Il y a des choses absolument sublimes.
On découvre des comédiens et des choses vraiment formidables.
Alors sans faire de cinéma, notons cette année la confirmation d'une tendance récente, le recentrage de tous les pays sur leur production nationale. Et la France ne fait pas exception à la règle. Regardez ce soir, on a l'excellente série médicale de TF1 Chicago Med, qui n'est pas cousue de fil blanc, si j'ose dire, mais qui ne marche pas du tout. On a le polar de l'Assise Glacée, qui marche maintenant bien, mais qui a connu un démarrage surtout spectaculaire. 4 800 000 téléspectateurs, ça finit ce soir. Et on a un unitaire qui, s'il fait aussi bien que ceux des semaines précédentes, sera en tête des audiences ce soir sur France 3. Le téléfilm du jour, c'est Le Pacte Sacré, une comédie bon enfant avec Romane Bourringer, Henri Guibet, qui est formidable, et Bernard Yerles, en mari d'une femme dépressive, obligée de recueillir des jumeaux à la rue, dont il vient d'apprendre qu'il est leur père.
Ah bah oui.
C'est une bonne comédie fédératrice, comme le téléspectateur les aime, ça prépare au sommeil. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Croyez-moi sur parole. Et on se tourne maintenant vers Sahar Bagheri, c'est la grande spécialiste de l'étude des programmes internationaux à Médiamétrie. Elle le confirme, le local, c'est la tendance internationale.
La tendance, c'est vrai, est aux contenus locaux de plus en plus dans des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Scandinavie. De plus en plus, c'est les contenus locaux qui marchent. On a également le poids de la fiction américaine qui est en train de diminuer. En France notamment, on a une baisse de 13 points en termes d'audience et performance des séries américaines en 3 ans.
Les séries, pardon, style Les Experts et tout ça?
Exactement. Avant, on avait des pays en Europe comme l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne qui assumaient leur programmation locale, qui marchait très très bien. La France était un petit peu un cas à part avec des séries américaines qui occupaient beaucoup d'espace. Depuis quelques années, on constate donc une baisse à la fois dans les grilles en termes d'offres, mais aussi en termes d'audience.
Alors Sahar, elle a notamment retenu cette année Emma et La Vengeance aux yeux clairs sur TF1, Jour polaire sur Canal+, Cannabis sur Arte, Glacé sur M6. Mais au fait, et si à l'engouement pour les fictions s'ajoutait tout de même une crise de création dans le domaine des variétés, une sorte de crise de foi?
C'est vrai que parmi tous les formats créés l'année dernière, on a 8350 nouveaux programmes, que ce soit sur la télé ou sur les plateformes SVOD qui ont été lancés dans une cinquantaine de pays dans le monde. On a le local qui est très présent. La moitié de ces concepts sont des créations originales, toujours confondues. Si on regarde cette création par genre, on a des fictions et des programmes documentaires qui sont en hausse. Ils représentent 40% des programmes diffusés dans le monde entier. Le divertissement représente 20% des nouveaux programme. Et par rapport à l'année passée, ça représente 3 points de moins en termes de création.
Oui, et la tendance s'accentue.
Donc c'est l'identité et le retour sur les racines des différents pays qui dominent, on l'a bien compris.
Thierry Frémaux, dans Sélection officielle, vous évoquez notamment la série de Martin Scorsese, Vinyl. Le fait que de grands metteurs en scène comme ça, Woody Allen vient de faire une série pour Amazon par exemple, se tourne vers l'outil télévision, ça vous intéresse, ça vous inquiète, ça vous agace?
Ah non, ça m'inquiète ni ça m'agace. Il y a aussi Paolo Sorrentino qui vient de faire Young Pop.
Ouais.
Non, et puis évidemment David Lynch qui avait fait et qui vient de continuer à reprendre Twin Peaks. Non, au contraire, mais un cinéaste, ça doit s'exprimer et ça va là où on lui permet de travailler. On avait montré à Cannes Carlos, vous vous souvenez, qui était la série en 3 épisodes de Olivier Assayas. Et bizarrement, il l'avait fait en série parce que les producteurs de cinéma lui disaient on ne peut pas produire ça car les télévisions ne voudront pas l'acheter. Du coup, il était allé directement sur Canal+ et c'était formidable. Donc, l'essentiel, c'est l'œuvre. Après, le cinéma est un art de prototype, c'est différent, c'est autre chose. Et je crois qu'il y a là de quoi faire coexister deux arts différents, complémentaires, mais chacun étant à sa place.
Le cinéma est un art de prototype. Ça va être sans doute la dernière sortie de cette émission. Dans quelques instants, on se retrouve pour vous faire gagner, je vous le rappelle, le livre de Thierry Frémaux. On se retrouve dans quelques instants.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Thierry Frémaux, dans quelle ville de France a été tourné le premier film de l'histoire par Auguste et Louis Lumière le 19 mars 1895?
Une ville avec deux fleuves.
Oui.
Dont on dit qu'il y en a un troisième, quel Beaujolais.
Voilà. Et donc, réponse donnée nominativement par Laurent Gérard, il s'agit donc de
Lyon.
Et voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On a passé un excellent moment. Bonne journée, beau livre, beau festival de Cannes.
Merci beaucoup.
On sait que vous avez votre président, donc nous sommes rassurés. Merci à Stéphane Boutsock et bonjour à Julien Courbet.
Avec un Beaujolais qui est en cru. C'est quand le prochain? Quand est-ce qu'il sort le prochain Beaujolais?
Le troisième jeudi de novembre, l'an prochain.
Ah d'accord, ah mince. Je pensais qu'il y avait plusieurs sorties par an, moi. Il n'y en a qu'une, ça va
c'est
être long.
C'est pas comme les films,
moi, je
réponds.
C'est dommage. Bon, on va se contenter de celui-là. Alors,
on
bonne journée.
Un peu. Allez, bonne émission.
Ciao, ciao.